Mais d'abord, cette annonce ce matin de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, qui est au bout du fil. Bonjour, Mme Guilbeault.
Bonjour, M. Drainville.
Bon, dites-moi, qu'est-ce que vous avez annoncé? Là, c'est quand même un gros montant d'argent, 65 millions pour lutter contre la violence liée aux armes à feu. On sait qu'à Montréal, on a eu plusieurs événements, plusieurs épisodes assez inquiétants. Alors, cet argent-là va servir à quoi?
Oui, un très gros montant, comme vous dites, près de 65 millions de dollars qu'on a annoncé tout à l'heure. Là-dedans, il y a un 27,6 millions qui est issu d'une entente avec le fédéral. Il y a un 4,5 millions qui provient du partage des produits de la criminalité, donc les biens qui sont confisqués aux organisations criminelles, l'argent qui vient de ça est redistribué au corps de police qui lutte contre les groupes criminels, et un 32,5 millions qu'on avait déjà annoncé à notre dernier budget pour lutter contre le crime organisé. Donc au total, près de 65 millions pour vraiment lutter contre tout ce qui est violence liée aux armes à feu et aux groupes criminels. Vous en avez parlé, moi, dans les derniers temps, on voit des histoires dans les médias, des fusillades au Vieux-Port de Montréal. Vendredi dernier, on a arrêté 12 personnes à la suite du démantèlement d'un réseau de trafic d'armes et de stupéfiants. J'ai vu aussi des histoires de fusillades dans Chaudière-Appalaches, dans Granby, tu sais, des endroits où on ne s'attend pas à voir ce genre d'histoire-là. Donc, on sent qu'il y a une montée de la violence. Moi, ça m'inquiète comme ministre de la Sécurité publique. Donc, je pense qu'il faut prendre des moyens très concrets. Puis des moyens concrets, c'est quoi? Bien, c'est de l'argent. Puis c'est des équipes dédiées à lutter contre ce type de violence-là. On en a à Québec, on en a à Montréal, on en a à la Sûreté du Québec, entre autres. Et donc, c'est ce qu'on a annoncé aujourd'hui. J'étais accompagnée, d'ailleurs, des dirigeants de ces trois grands corps de police-là pour assurer la sécurité de la population puis la paix d'esprit de la population.
Bon.
C'est pas normal qu'il y ait une fusillade dans ma rue comme ça, là, du jour au lendemain.
Mais ça va,
on
ça...
veut protéger notre monde.
OK, mais concrètement, Mme Guilbeault, là, vous donnez de l'argent au corps de police. Bon, ils vont faire quoi avec ça?
Oui.
Ils vont créer des escouades? Ils vont racheter des armes à feu? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent?
Ben avec cet argent-là, ça sert soit à créer ou à maintenir des équipes ou à mettre plus de monde dans ces équipes-là. Quand on pense à la Sûreté du Québec, ils ont déjà une équipe qui est dédiée à la lutte contre le trafic d'armes à feu sur Internet, l'approvisionnement illégal en armes à feu pour les groupes criminels. Fait que ça va en quelque sorte sécuriser puis donner plus de moyens à cette équipe-là. On a l'escouade Quiétude au service de police de la ville de Montréal qui a d'ailleurs fait les arrestations, les 12 arrestations dont j'ai parlé vendredi dernier. Fait qu'encore là, on va avoir plus de moyens pour que cette équipe-là travaille et il va y avoir une nouvelle équipe qui va être créée à Québec parce qu'on sent à Québec aussi là, une montée des incidents. Fait qu'une nouvelle équipe qui va être destinée à prévenir la violence et l'utilisation des armes à feu pour pouvoir lutter contre les membres de groupes criminels qui utilisent les armes à feu. Fait qu'on prend les grands moyens. Moi, je considère qu'on prend les grands moyens pour assurer la sécurité de notre monde.
On va espérer que ça va donner des résultats. Là, vous avez publié un texte. Change de sujet, là. Vous avez publié un texte, Geneviève Guilbeault, députée de Louis-Hébert, à propos de toute la controverse autour, donc, de ce mot qui a été prononcé dans une salle de classe à l'Université d'Ottawa. Et là, la prof qui avait pris grand soin de dire « je prononce ce mot « nègre » parce que au départ, c'était très insultant, très blessant. Mais il y a des membres de la communauté afro-américaine, puis afro-québécoise, qui ont fini par se l'approprier. Dany Laferrière a dit, écoutez, le mot nègre en soi n'est pas mauvais, c'est le contexte, il faut faire attention. Et là, vous avez dit, c'est allé trop loin. On aurait dû protéger l'enseignante, parce que non, elle n'a pas été raciste, elle a voulu ouvrir une discussion. Dites-moi, pourquoi vous avez décidé de vous prononcer sur cet enjeu-là?
Mais je trouve que cette histoire-là, honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Je l'ai fait à titre, de députée. Je l'ai fait à titre d'ancienne étudiante. J'ai passé un certain nombre d'années moi-même à l'université, puis je considère que c'est très important la qualité de la formation dans les universités. Je l'ai fait aussi comme vice-première ministre, parce que quand j'en parle avec mes collègues, il y a plusieurs qui pensent aussi que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. Puis ça n'a pas de bon sens pour deux éléments. Premièrement, l'utilisation de ce mot-là, puis là, on est tous d'accord sur le fait que c'est pas un mot qu'on utilisera au quotidien, puis qu'on se dirait comme ça dans des conversations avec des gens, puis tout ça, pas du tout. Là. Ça, c'est non négociable. Ce mot-là ne doit plus être utilisé au quotidien dans la vie courante. Mais dans un contexte de formation, avec un contexte justement précis, une liberté académique, une liberté d'expression qui doit venir avec la formation universitaire, je considère que si on se met comme ça à aseptiser nos contenus de formation, on va finir par éroder l'histoire. Or, l'histoire, on ne peut pas la réécrire. L'histoire est arrivée comme elle est arrivée. On doit l'enseigner pour mieux la réfléchir, pour mieux tirer les leçons pour l'avenir. Et on ne peut pas, comme ça, je pense, enlever des notions au gré de la rectitude politique, au risque, justement, de compromettre la formation. Donc, ça, c'est le premier élément. Je pense que la liberté académique, la liberté intellectuelle devrait être totale dans les universités. L'autre chose, c'est le traitement qu'on a réservé à cette enseignante-là.
Ouais.
Moi, quand je vois la façon dont sa propre direction ne l'a pas soutenue, puis ensuite les réseaux sociaux, les informations qui ont été données sur elle, puis là, aujourd'hui, cette dame-là me semble vivre dans la peur carrément au quotidien, puis elle se dit, elle disait, je voyais l'excellent article d'Isabelle Haché qui disait qu'elle était presque heureuse de mettre son masque parce qu'elle se sent mal là, de se déplacer, puis tout ça, fait que je trouve que ça n'a pas de bon sens, ça non plus.
Alors, en fait, ce que Isabelle Haché raconte, c'est que cette professeure-là maintenant a peur. Elle a peur, parce qu'elle a été prise à partie sur les réseaux sociaux. Les professeurs qui l'ont défendue à l'Université d'Ottawa sont également pris à partie. On les traite de excusez l'expression, là, je m'en excuse d'avance, là, mais de « fucking frog ». Donc, parce qu'ils sont francophones pour la plupart d'entre eux. Et puis là, vous avez plusieurs centaines de professeurs de cégep et d'université qui signent une lettre ouverte publié notamment dans Le Devoir, où ils prennent la défense de cette collègue de l'Université d'Ottawa, mais aussi de la liberté de pouvoir s'exprimer. Il y a Dominique Anglade, la chef du Parti libéral, première femme noire à diriger un grand parti politique au Québec, qui dit « ça va trop loin, cette controverse, on est rendu trop loin dans le politiquement correct ». Donc, c'est... On va espérer que les affaires vont se calmer, n'est-ce pas, Geneviève Guilbeault, et qu'on va être capable de continuer à dialoguer dans le respect, en faisant très attention, évidemment, au choix des mots, parce qu'ils peuvent être blessants, mais en ne se censurant pas pour autant. C'est ça, il faut trouver le juste équilibre, là.
Exactement. Puis s'il y a un lieu, quant à moi, qu'on doit préserver en termes de discussion, d'échange, de réflexion puis de liberté de parole, ouais, ce sont bien nos universités. Il en va de la qualité de notre formation puis de la capacité aussi à ouvrir son esprit, à exercer son jugement, à réfléchir notre histoire pour mieux orienter l'avenir, comme je disais. Donc, c'est très, très important. Alors, j'ai senti le besoin de réagir et pour discuter avec plusieurs collègues et même quand voir les réactions, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont d'accord avec ce point de vue-là.
D'accord. Geneviève Guilbeault, donc ministre de la Sécurité publique, vice-première ministre du Québec. Merci.
Merci à vous.
Au revoir. Luc, juste avant d'ouvrir les lignes, là, je rappelle notre numéro 790-9850 ou encore 98985 par texto. Drainville, le commercial, 985FM.ca. Un petit commentaire court, Luc, sur l'allure que prend ce débat.
Ben, l'allure qui prend ce débat, je trouve que je suis encouragé d'entendre Mme Guilbeault. Je suis encouragé d'entendre que ses collègues au cabinet sont également extrêmement inquiets. Je trouve que c'est une cause extrêmement importante et la façon dont la direction de l'Université d'Ottawa s'est transformée en carpette à plat ventre et qui ont laissé de côté leurs professeurs, je trouve ça mais incroyablement scandaleux. Honnêtement, scandaleux. On peut pas tomber dans ça, c'est une forme de fascisme.
Mais t'es pas frappé, toi, par le fossé culturel qu'on observe, je te le dis, Luc, du côté
entre
anglophone.
Les générations, oui.
Non, mais même culturel. Du côté anglophone, il y a pratiquement personne qui défend la professeure de l'Université d'Ottawa. Et du côté francophone, il y a comme une levée de bouclier pour dire, hey, ça va faire. C'est comme si... C'est ça, c'est le choc des cultures, la culture anglophone, anglo-saxonne d'un côté et francophone, pour ne pas dire franco-québécoise de l'autre. Ça te frappe pas?
En partie, oui, mais j'ajouterais une nuance ici, c'est que au Canada anglais, on écoute CNN et Fox et CBS et les autres, comme ici, on écoute Radio-Canada et TVA. Oui. Alors, la mouvance canadienne-anglaise est beaucoup plus alimentée par le débat américain que par ce qui se passe ici. Ici, pour nous, les États-Unis, c'est proche physiquement, mais c'est mentalement beaucoup plus loin que ça l'est pour un Canadien anglais.
Très bien.
Alors, ce débat-là est venu des États-Unis et c'est de là que ça vient.
On se reparle un peu plus tard, Luc.
Oui.
Je vous ai demandé de m'appeler si vous êtes un Québécois d'origine haïtienne ou si vous êtes, je ne sais pas moi, un Québécois d'origine sénégalaise, Côte d'Ivoire, peu importe. Nico, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, je suis Québécois d'origine tchadienne. Je viens du Tchad.
Oui.
Donc, effectivement, je suis noir.
Oui.
Et le mot nègre, il faudrait que les Africains et que tout le peuple noir acceptent qu'on les appelle des Noirs. Ce ne sont pas des injures. Et ce que je dis toujours aux gens, il faut accepter qui on est. Moi, on m'appelle Noir. Je dis même dans mon lieu de travail, les gens ont peur de dire, non. Dites que je suis Noir. Je suis fier de l'être. Et à un moment donné, il faut comprendre que les injures qui font mal, c'est celles qui sont vraies. Donc, le fait de dire noir et que tu te sens offusqué, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je vais plus loin pour faire l'image entre les Arabes qui ne veulent pas qu'on parle de Mohamed. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il ne faut pas qu'on y arrive là, que les Noirs acceptent qui ils sont.
D'accord, Nico, mais quand on parle du mot nègre dans un contexte historique, là, qu'on explique qu'il fut un temps où c'était très, très péjoratif, et évidemment, ça l'est encore. Évidemment, j'oserais pas vous traiter comme ça, moi, là, sur les ondes, on me retirerait des ondes avec raison, mais le fait qu'on dise « ça a existé », ce terme-là, et... Parfois, ça existe encore dans certaines œuvres, par exemple de Senghor, Léopold Senghor, l'ancien président sénégalais, ou l'auteur oui. Danny Laferrière. Est-ce que ça a encore sa place dans une discussion?
Ça a sa place, et moi, il faut remettre la balle dans l'autre camp. Ce sont les Blancs, les Occidentaux, qui ont cherché à dénigrer le peuple noir. Et... il faut remettre la balle dans leur camp, il faut remettre la honte sur les Blancs. Quand je dis Blancs, ce n'est pas nécessairement vous, mais les ancêtres Blancs qui ont cherché à ridiculiser et rabaisser le peuple noir. Il
D'accord.
faut ramener le ballon dans leur camp pour dire que vous voulez rabaisser les Noirs. Pourquoi? Il faut donner les raisons. Mais ce n'est pas la faute des Noirs. On est tous égaux. Moi, j'appelle un Blanc, il n'est pas frustré. Il sent pas qu'il est insulté. Mais moi, je suis noir. Tu m'appelles noir. Je ne suis pas frustré. Donc,
d'accord.
Moi, je remets la balle dans le camp des Blancs. Il faut que les Noirs ramènent le ballon dans le camp des Blancs.
D'accord.
Vous avez honte.
Nico, merci. Nico, je dois vous arrêter parce que j'ai pas beaucoup de temps et je veux aller à Marie. Bonjour, Marie.
Oui, bonjour. Je suis vraiment. Ben, moi, je suis d'origine haïtienne. Et puis, bon. Je vous avoue que j'ai été vraiment un peu peinée pour le professeur. Parce que pour moi, le contexte dans lequel elle a utilisé le mot, c'était pour expliquer. Et c'est un contexte d'éducation et historique. Et j'étais tout à fait d'accord avec ça. Et quand même, ça ne m'insulte pas. En fait, c'est toujours le contexte dans lequel on utilise le mot. Mais moi, je trouvais que c'était tout à fait approprié. Et je trouve que le directeur de... En fait, c'est le recteur de l'université oui. a manqué de courage. Et il aurait dû aussi, discuter au lieu de tout de suite pénaliser le professeur. Je trouve que ça fait un peu... tout de suite, on balaye le tout sur le tapis. Mmh. Et puis, franchement, ça manquait de courage, si je ne veux pas utiliser un autre mot.
D'accord.
Je dois vous avouer aussi que moi, j'ai déjà été victime de racisme quand j'étais jeune. On m'a appelée négresse, mais ça n'a pas fait en sorte que je déteste les Blancs, entre guillemets, là, par rapport à ce qui est arrivé, parce que je comprends aussi que c'est une question d'éducation. C'est très important pour moi, l'éducation et utiliser les mots qui font mal. Oui, c'est important, c'est nécessaire. Voilà.
Merci beaucoup, Marie. Je suis très content que vous ayez appelé. J'ai beaucoup de textos. Je vais en prendre deux, trois représentatifs. Merci d'aborder ce sujet. Je suis d'origine haïtienne. Je n'ai rien contre l'utilisation du mot nègre dans un cadre académique. Je ne vois pas pourquoi c'est insultant si on fait mention que c'est dans un contexte historique, un contexte académique. Si le mot nègre est sorti de son contexte, il ne peut pas être utilisé pour condamner la professeure qui l'a utilisé. C'est un radical noir qui fait la promotion de la haine à ce moment-là, ou un radicalisme noir qui fait la promotion de la haine, si je vous comprends bien. Vous êtes quand même quelques-uns à me dire, moi je suis heurté, je suis blessé quand je vous entends le prononcer. Je pense qu'il faut que je sois de bon compte. Il y a effectivement parmi vous des personnes qui n'aimaient pas me l'entendre dire, et je respecte totalement votre point de vue, je comprends. Que ça a une charge émotive puis une charge historique. Je pense que vous comprenez aussi ce que je vous dis. Je n'endosse pas ce mot-là. Je ne suis pas d'accord avec ce mot-là. S'il est utilisé pour vous rabaisser, pour vous dénigrer, jamais, jamais j'accepterai ça. J'accepterai pas d'autres mots également. Mais dans un contexte d'une classe où on essaie de comprendre l'évolution d'un peuple, par exemple, l'évolution d'une culture, l'évolution d'un mot... Là, je pense qu'on peut le faire dans le bon contexte. Si on commence à éliminer des mots de la langue française, on se prive, je pense, d'un savoir historique. Et si on ne prend pas, comment dire, si on ne s'approprie pas ce savoir historique, on est condamné à répéter nos erreurs. Je pense que pour éviter de répéter certaines erreurs liées au racisme, liées au dénigrement des Noirs, je pense qu'il faut raconter l'histoire des Noirs. Il faut dire qu'ils ont été victimes de l'esclavage, qu'ils ont été victimes de racisme et tout le reste. Et ça passe, heureusement ou malheureusement, c'est comme ça, ça passe par l'explication de certains mots. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas-ci. Et je pense qu'il faut continuer à faire cette éducation à partir des mots qui existent. On s'en va à la pause.